Monsieur le ministre, monsieur le président, madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous voilà donc aujourd'hui en train d'examiner en deuxième lecture cette proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste. On a rajouté cette fois-ci sur les mineurs. Alors, lors du premier passage de ce texte devant notre Assemblée, nous avions effectivement exprimé notre accord de principe sur le fait de parler de l'inceste et de travailler sur l'inceste, mais nous étions frustrés sur la manière dont les débats avaient été menés et notamment sur l'insuffisance de travail collectif pour pouvoir analyser la question, mener les auditions, ce que nous faisons habituellement quand il s'agit de préparer une séance du Parlement. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes un an après, ce qui montre d'ailleurs qu'on aurait pu prendre un petit peu de temps au moment où nous l'avons demandé pour travailler ensemble. Et effectivement, le texte qui revient du Sénat est un texte qui a été amélioré. Je vois que les débats au Sénat ont tenu compte d'un certain nombre d'objections que nous avions opposées. Mais pour autant, le caractère inachevé de certaines préconisations nous semble encore présent. Tout d'abord, il faut que nous disions clairement la chose suivante, et notamment aux victimes. Il est évident que pour nous, ce texte est un texte important dans la mesure où il s'agit de dire clairement que nous sommes conscients du drame que les victimes ont vécu et des ravages que ceci a pu créer dans la construction, ou je dirais même dans la destruction de leur personnalité. L'inceste demeure un interdit social, un tabou majeur, et effectivement, on peut penser opportun de le nommer en tant que tel et de le définir dans notre droit. Je pense qu'effectivement, on peut tout à fait comprendre et reconnaître la souffrance toute particulière des enfants qui sont injustement agressés par celui qui est censé les protéger, qui leur a donné la vie, par un proche, donc quelqu'un envers qui ils ont confiance, pour qui ils ont souvent de l'affection. En cela, effectivement, il y a une spécificité de l'inceste par rapport à d'autres agressions sexuelles. Parce que, effectivement, alors que très souvent, les agressions sexuelles sont dénoncées très violemment dans l'opinion, ici, c'est vrai, les enfants sont attaqués dans leur maison, dans leur lit, et souvent de manière répétée et par un proche. Ce qui me semble aussi devoir être souligné, c'est que très souvent, ils ont l'impression de ne pas être protégés, y compris par la mère ou par les autres membres de la famille, qui très souvent restent extrêmement passifs, voire critiques, à l'égard de la victime dans une telle situation. On sait qu'on a, on dispose de témoignages extrêmement émouvants, dont notamment celui d'une jeune femme qui a publié sur d'une manière anonyme, et elle a dit de son père « Il m'a tuée, mais je ne suis pas morte ». Elle dit aussi « J'étais ensevelie sous un flot d'impuissance dont seule la mort pouvait me délivrer. » Donc effectivement, nous sommes entièrement d'accord sur le traumatisme irréversible que ceci peut occasionner pour l'enfant et sur la déstructuration du lien social et familial qui était si généré. Au regard de ces exigences, toutefois, il me semble qu'on doit noter qu'un certain nombre d'interrogations que nous avions posées à l'époque demeurent. Parce que précisément, quand on fait un texte de loi, on doit tenir compte de contraintes juridiques. Et on ne peut pas simplement se fonder sur la compassion et faire un texte qui finalement n'explicite pas les règles juridiques qu'il est censé poser et qui, de surcroît, me semble-t-il, aujourd'hui, y compris après le passage par l'article 40 et par le Sénat, c'est un texte qui finalement a une valeur normative relativement minime. Alors, d'abord, ce que le Sénat a amené. C'est vrai que ce que nous avions un peu critiqué en première lecture a été clarifié par le Sénat, c'est-à-dire qu'effectivement, on a plus clairement précisé que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge. Toutefois, ce que nous avions critiqué en première lecture demeure, c'est-à-dire qu'il y a toujours une différence que je n'arrive pas à comprendre entre la définition pénale et la définition civile. Ce qui nous semble particulièrement inacceptable dans l'inceste, c'est lorsqu'il se produit souvent dans la famille biologique, dans la famille proche. Il y a en droit civil deux types de situations. Les situations qui sont l'inceste absolu, entre ascendant et descendant, entre frères et sœurs, et ce que je pourrais appeler l'inceste relatif, où effectivement, s'il s'agit du concubin, de la cousine, etc., dans ces cas-là, il y a possibilité de lever l'interdiction à mariage. Donc nous, ce que nous avions souhaité, c'est que cet inceste qui soit nommé et puni particulièrement dans le code, soit celui qui relève de l'inceste absolu. Et je pense que ici encore, nous regrettons qu'on ne se soit pas calé sur la distinction qui existe en droit civil. Alors le Sénat, effectivement, a précisé la définition et a précisé la notion de famille et a précisé quand il y a autorité. Mais je pense que pour autant, on reste dans cette ambiguïté concernant la différence entre les définitions en droit civil et en droit pénal. Par ailleurs, un certain nombre de réserves qui avaient été posées en première instance demeurent, qui ne sont pas éclaircies. Je rappelle que des personnes aussi concernées et aussi sensibles aux droits des enfants que Claire Brisset ou Dominique Versigny avaient émis des réserves sur lesquelles, là encore, on n'a pas eu de réponse à ce jour. Je voudrais dire, par exemple, aussi, que la contrainte dans ce texte est précisée s'agissant de l'inceste. Mais la contrainte et le fait de dire que la contrainte résulte spécifiquement ou particulièrement de la différence d'âge, ça, c'est une notion qui pourrait tout à fait se retrouver, non pas dans un texte sur l'inceste, mais dans un texte sur les agressions sexuelles ou les viols sur mineurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'apporte ce texte sur l'inceste, mais qui n'est pas spécifique à l'inceste, qu'on aurait pu retrouver donc dans les lois sur les agressions sexuelles pour mineurs. Je voudrais aussi rappeler que les autres éléments, et notamment les dispositifs de prévention qui ont été prévus, finalement, nous laissent aussi un peu dubitatifs, parce que on nous explique que c'est l'école, il y a un certain nombre de lieux où il faut faire de la prévention. Nous en sommes tout à fait d'accord. Bon. Mais il est évident que ce n'est pas à cet endroit-là que ça doit figurer. D'ailleurs, sur les autres dispositions du texte, on nous a bien dit que ça avait une valeur réglementaire. Et en l'espèce, la loi de 2007 donne la possibilité, donne la compétence pour la protection... Mais non, ça n'est pas... Ce sont des compétences. La compétence pour la protection des mineurs est dévolue aux conseils généraux. Par conséquent, je ne comprends pas qu'on fasse un texte sur un sujet qui est très évidemment un texte de protection des mineurs, et que ce texte ne soit pas renvoyé à la compétence du Conseil général, parce que c'est le Conseil général qui a compétence pour la prévention en cette matière. C'est la loi. Je n'en peux rien. Si vous faites la prévention dans le code pénal, ce n'est pas dans le code pénal qu'on fait la prévention. La prévention en la matière, et elle est importante, et elle est nécessaire, elle est de la responsabilité, en fonction de la loi, du Conseil général. Il n'est pas normal que le Conseil général ne soit pas associé quand on parle de prévention en la matière. Par ailleurs, on avait dit aussi, dans le texte d'origine, mais là encore nous avions soulevé que ça pouvait poser un problème, qu'il fallait mieux accompagner les victimes. Et nous en sommes 100 fois d'accord, car les victimes disent souvent qu'elles ont le sentiment de se retrouver seules et face à ce problème. Mais vous avez vu vous-même que cette partie-là aussi a été éliminée du texte que vous aviez proposé. Et il est éliminé d'autant plus que ce genre de centre que vous proposiez au démarrage avec des psychiatres et des infirmières spécialisées, ceci pouvait sembler intéressant, même si effectivement ce n'était pas un texte du code pénal, mais on a bien vu que l'hôpital public aujourd'hui a été dépecé, et je vous donne un exemple précis. Dans ma circonscription, parfaitement, dans ma circonscription, il y avait un service tout à fait remarquable, qui était celui du professeur Joël, qui traitait les suicidaires et notamment les personnes victimes d'inceste. Eh bien, ce service a perdu des moyens depuis l'année dernière, en contradiction absolue avec ce que vous aviez dit vouloir faire, c'est-à-dire améliorer le suivi et le secours aux personnes qui sont victimes d'inceste. Donc, effectivement, nous comprenons tout à fait la nécessité d'affirmer symboliquement l'importance du tabou de l'inceste, de dire aux victimes notre compassion et notre compréhension pour ce qui leur arrive. Mais ce texte nous posait un problème parce que nous craignions son inefficacité et le fait qu'il ne répondait pas aux véritables problèmes qui étaient posés. Et malheureusement, malgré son amélioration par le Sénat, les interrogations demeurent et c'est la raison pour laquelle le groupe socialiste, bien évidemment, n'est pas opposé à ce texte, mais on considère que ça sera un peu comme un emplâtre sur une jambe de bois. Mis à part le côté symbolique de nommer, il nous semble qu'effectivement, il n'apporte pas énormément de choses. Il est encore vidé par rapport à l'année dernière et c'est la raison pour laquelle nous serons amenés à nous abstenir.
Merci. La parole est à Madame Henriette Martinez.